attente, je vous souhaite la bienvenue au nom de votre chauffeur qui s'appelle Jean.
Mais je vois le chauffeur qui me fait signe, je vous demande pardon, je vais reprendre ma place. Voilà.
L'autocar.
Si j'avais pris le temps, j'aurais au moins pu me dégourdir les jambes dans un couloir. Et puis aller aux toilettes.
Pierre Fresnay, dans un film des années 60, traitait les autocars, vous l'avez entendu, de vieilles carrioles et vantait les couloirs des trains. Mais quels trains ont encore des couloirs? Et combien de trains sont vieillissants, tandis que les autocars peuvent disposer aujourd'hui de toilettes? La dérégulation, en fait, brouille les repères établis et ouvre un vrai maelstrom. On voit même la SNCF affréter des cars qui vont concurrencer ces TER, qu'elle demande pourtant aux régions de financer, et ces intercités qui sont si mal en point. L'ouverture à la concurrence et la dérégulation, c'est un leitmotiv de l'Union européenne. La loi Macron, dans ses dispositions relatives aux autocars, les met en musique à sa façon. Des lignes interrégionales pourront être ouvertes sans avoir besoin de se présenter comme des segments de lignes internationales. Et le régime des autorisations administratives sera déverrouillé. Et avant même que la loi ne soit adoptée au Parlement, les grandes sociétés de transport françaises et étrangères s'apprêtent à lancer des flottes sur des lignes à fort trajet prévisible. Certaines de ces lignes, nous promettons, seront transversales, genre Limoges-Périgueux. C'est à voir, sans doute, la libéralisation des autocars offrira-t-elle davantage de mobilité à ceux qui ont peu de moyens financiers, mais sur quel réseau? Il y a peu de chances que les territoires que le retrait des services publics dessèche s'en trouvent mieux irrigués.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Mathieu Flonneau, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Monsieur, commençons par des acronymes. P2M.
Passé, présent, mobilité, une association essentiellement d'universitaires qui s'intéresse aux questions sociales, politiques, culturelles soulevées par les questions de mobilité, questions aux forts enjeux évidemment contemporains, puisque la question des autocars s'inscrit dans une réflexion générale sur l'épaisseur sociale des mobilités, leurs coûts, et donc aussi des enjeux républicains forts.
Parce que la mobilité, ce sont des pratiques. On faisait une histoire des transports, pratique par pratique, naguère. Mais la mobilité, vous dites que c'est une affaire discriminante en matière sociale. Le mode de déplacement, ça devient un fondement de l'inégalité sociale. Nous sommes dans une société dont les élites disent qu'on doit y aller vite, mais il y a des gens qui vont moins vite.
C'est le lieu par excellence aujourd'hui de la représentation effectivement de cette société à plusieurs vitesses qui est une réalité de la société française. Le contemporain là évidemment attire tous les regards et une société avec 5 millions de chômeurs doit chercher naturellement des solutions pour développer de la mobilité et donc de l'emploi et de l'activité.
Moi, quand j'étais jeune prof, je débarquais de mon train de banlieue à Saint-Denis et je voyais passer à 7h du matin le Trans-Europe Express avec les gens qui prenaient le petit déjeuner sous des lampes et le train était déjà lancé à grande vitesse. J'avais le sentiment de cette inégalité.
Mais alors justement, vous évoquez là le nord de la banlieue parisienne. Ça serait le même constat à l'est. Combien de fois m'est-il arrivé d'attendre un RER qui avait du mal à arriver pendant que des Thalys, des Eurostar et d'autres trains à grande vitesse passaient, eux, à l'heure.
Alors revenons à l'histoire des transports, parce que vous militer pour le passage de l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité. C'est le titre d'un livre collectif que vous avez animé. Vous êtes aussi un historien de l'automobile. Alors, je lis, on est très documenté par des textes qui viennent des différents lobbies quand on parle aujourd'hui des autocars, dans un document du Syndicat national des entreprises de transport que l'autocar serait né il y a un peu plus de 100 ans, en 1909.
Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, effectivement. Je reviendrai, si vous voulez bien, sur les lobbies qui sont divers et qui sont de tous côtés. Ce point est tout à fait intéressant à noter, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fronts renversés, des positions d'acteurs, des jeux d'acteurs qui sont parfois contradictoires. On aura l'occasion de l'évoquer, vous l'avez fait d'ailleurs dans le chapeau en évoquant la SNCF, qui est un gros acteur du transport routier.
Mais revenons à 1909, Il faut même aller plus amont.
Voilà, il faut indiscutablement remonter au tout début des concours que l'Automobile Club de France, société de promotion de l'automobile, organise. Et dans ces concours, concours, il y a des concours pour des véhicules industriels. Tous ces mondes de l'automobilisme que je me plais à caractériser ainsi, ce sont les autres autos, puisque l'auto individuelle est celle que l'on a sous une forme de persistance rétinienne à l'œil, évidemment, mais on ne voit pas tout le reste. Et dans tout le reste, il y a les camions, il y a les autocars, il y a les autobus, là, la frontière est ténue, mais pour revenir aussi à l'archive qui ouvrait, et on le conçoit, l'anecdotisation témoigne aussi de la convivialité de la route, mais enfin l'anecdotisation ne doit pas faire oublier le sérieux du sujet, c'est-à-dire que l'autocar...
Marques, les marques d'autocars qui fabriquaient les autocars sérieux, c'était quoi?
Toutes les plus grandes marques automobiles ont eu une activité d'autocar, ou l'ont encore. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait notoire. C'est-à-dire que parmi les premiers acteurs, on voit des acteurs disparus. Les Rocher-Schneider, les Somma, les Chausson. Puis on voit arriver les Renault, les Citroën. On voit Saviem bientôt. Donc Berliet, naturellement, qui est en position de force, là, le constructeur lyonnais. Mais on est là dans un monde éclaté, dans une réalité industrielle qui est pluriel et qui se retrouve dans la réalité de l'usage et de l'exploitation au travers de sociétés également de statuts très différents.
Alors, il y a des activités différenciées de l'autocar et il y a dès le départ, vous regardez en particulier les documents de l'Automobile Club de France, des autocars d'excursion.
Oui, alors ce point est décisif pour la popularisation de l'automobile et l'automobilisation de la société, c'est-à-dire que l'auto va servir le loisir et le tourisme.
Je me tourne vers Stéphane Ronxin, notre réalisateur. Le son que nous avons choisi pour illustrer l'autocar d'excursion, j'espère qu'il ne va pas relever de l'anecdotisation.
Il est temps que je vous souhaite la bienvenue au nom de votre chauffeur qui s'appelle Jean. Moi, je m'appelle Chantal et on vous demande, puisqu'on reste 14 jours ensemble, que vous nous appeliez par nos prénoms. Et vous savez que notre car, c'est notre maison. Vous avez, pour les fumeurs, des cendriers. Vous êtes prié de mettre les cendres dans les cendriers, pas par terre. Tout ce qu'il y a comme papier enveloppant bonbons et gâteaux, vous les mettez par terre.
Maison ambulante, en route pour le soleil de l'Italie. Chaque matin, ils dorment au départ. Qu'y a-t-il au fond de la fatigue? Sont-ils harassés de voir trop de choses trop vite? Ou au contraire déçus par ce qui leur échappe? Les détails, les rues, les visages, auxquels sans cesse on les arrache. Ils ont fait des centaines de kilomètres déjà, visité Pise, Florence, tambour battant, comme dans un rêve. Rome peut-être. À Rome, prochaine étape, on restera 2 jours. On se reposera, on regardera, on s'attardera. Un moment de bonheur.
Mes enfants, est-ce que vous avez bien déjeuné?
Oui.
Non, il y a quelqu'un qui a dit non. Bon, alors écoutez, vu que vous avez bien déjeuné, vous allez maintenant faire votre petite sieste. Alors tout le monde, les fauteuils relax, dormez bien, mais ne ronflez pas, ça gêne le chauffeur quand il dort.
L'émission provinciale formidable de Jean-Claude Bringuier et Claude Ostenberger. Nous sommes au début des années 70, mais on est quand même dans un temps d'avant. On pouvait fumer dans les autocars. Les autocars d'excursion, c'est une activité entrepreneuriale qui est restée libre. Je voudrais qu'on parle des transports régionaux réguliers. Alors, les grandes sociétés de construction d'autocars ont participé aux transports régionaux réguliers, je pense à Citroën par exemple.
Absolument, là, le témoignage précédent fleure bon le patronage, et effectivement cette France d'avant, il y avait une forme d'investissement au plus près du réseau, au plus près des concessionnaires, notamment chez Citroën, qui portait une attention toute particulière à ce mode de commercialisation de ses véhicules, et d'avoir des autocars, d'avoir également la signalétique qui fonctionnait avec, cela donnait une coloration à cette France rurale, des années 20 encore, majoritairement à partir de 1931 urbaine, mais cette France rurale, eh bien, qui commençait à être irriguée effectivement par des lignes régulières. Et donc les autocars Citroën ont été tout à fait actifs. On en trouve dans les musées des autocars. Il y a un musée de l'autocar en Alsace qui conserve certains de ces véhicules qui sont parfois avec des toits panoramiques, vitrés. Donc il y a une relation avec le paysage qui est tout à fait intéressante. Le voyage en groupe, c'est le paysage qu'on découvre en groupe. Et c'est donc une forme de convivialité de la route aussi qui est assez intéressante à noter. Il y a un goût spécial de ce voyage et les transports Citroën avaient cette réputation aussi de faciliter l'existence quotidienne.
Vous avez apporté des incunables, nos auditeurs ne vont pas pouvoir les voir. Ce sont les almanachs du début des années 30 que Citroën publiait, où il recensait en particulier
absolument
ses activités d'autocar.
Il y en a eu quatre de ces almanachs qui ont une grande valeur aujourd'hui. Ils décrivent par capillarité la manière dont l'automobile a gagné tous les services au cours de cette période. Et donc la route, la culture de la route, la civilisation de la route l'emporte au cours de cette période. La route qui n'est pas un mode, qui est une infrastructure. Et ce qui est en jeu derrière, c'est l'usage collectif de la route. Et l'autocar, c'est cela.
Ben, nos auditeurs ne verront pas. Ça coûte très cher de toute façon pour être vu. Vous donnez un prix à vos étudiants?
Oui, on peut mesurer ça en iPhone.
C'est 2. La nouvelle unité de mesure. D'accord. Nous voici dans le sud-est de la France. Tous nos reportages, en effet, viennent de cette moitié est. C'est curieux. Nous sommes en Ardèche, aux côtés de M. Jouve. Et M. Jouve, lui, anime une petite entreprise. Une petite entreprise à capital familial, peut-on imaginer. Ce n'est pas une de ces grandes sociétés que vous décriviez il y a un instant.
Alors, M. Jouve, il y a des années que vous faites ça.
Ah oui. Au début, la campagne était beaucoup plus peuplée. Alors, on travaillait assez bien, ça allait. Mais maintenant, à part aujourd'hui, que c'est foire, il y a même pas ça, qui va.
Et vous faites le trajet une fois par semaine pour la foire?
Oui. La foire n'a lieu que deux fois l'an.
Et non seulement vous transportez les voyageurs, mais aussi vous faites la marchandise.
Un peu de marchandise à la saison des chevaux.
Mais vous n'êtes non seulement un transporteur, mais aussi un messager pour vos clients.
Ah oui, bien souvent.
Vous faites les courses aussi?
Ah oui, quelquefois.
Et par tous les temps, vous faites ce trajet?
Eh oui, malgré qu'il fasse pleuve, qu'il fasse beau temps.
Même l'hiver?
Même l'hiver.
La route est bonne, sûre?
La route n'est pas trop mauvaise, vous voyez. Pour le moment, les fossés ne sont pas dégagés, on voit rien du tout.
Et l'hiver, quand il y a de la neige?
Cette neige fait pencher les arbres, alors la route n'a plus que mettre un gant de large.
Et vous y arrivez quand même?
Eh oui.
Et si vous n'existiez plus, qu'est-ce qui se passerait?
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait.
Vous allez à la Mastre?
Oui, oui. Alors, je vais à l'hôpital, voir mon frère, il est malade.
Et vous, monsieur?
On va à la Mastre pour aller faire des commissions.
Et vous prenez le car?
Ah oui, obligé.
Pourquoi obligé?
Parce qu'on n'a pas de voiture, alors c'est obligé de prendre le car.
Et si le car n'existait pas?
Si le car n'existait pas, j'y vais à pied des fois.
Vous y allez à pied?
Eh oui.
Même l'hiver?
Oh, bien sûr.
La ligne Jouve vers la Mastre. Je note qu'à l'époque, en Ardèche, il y avait encore des trains de voyageurs SNCF, département peut-être pionnier. L'Ardèche est privée depuis des lustres de trains de voyageurs SNCF. Mathieu Flonneau.
Alors, c'est très intéressant parce que ce département et la région Rhône-Alpes est aussi très bien renseignée sur ces transports routiers. Donc, il y a des thèses et des travaux historiens qui ont été réalisés là-dessus. Je pense là à une thèse d'Étienne Faugier, soutenue récemment sur l'économie de la vitesse dans les campagnes. Et précisément, il s'intéresse à l'ensemble de ces transports par autocar qui ont irrigué la vie quotidienne de ces Français. Des sociétés ont été également étudiées par Anne-Marie Granet-Abissé, par exemple, la société des autocars Planches, qui est très connue dans la région, les autocars et les taxis Ricou également, qui sont des sociétés familiales d'ampleur et aux destinées plus ou moins florissantes, mais qui véritablement constituent cette épaisseur d'un tissu social et économique régional tout à fait notoire. Et donc, lorsque vous évoquez la disparition du chemin de fer, effectivement, cette contraction, elle laisse la place à une concurrence modale et à un accroissement des mobilités routières.
Oui, enfin ça c'est vous qui le dites, je vais me permettre de me faire le défenseur du train. Je pense que la société Jouve n'existe plus. À la Mastre, en revanche, on a réouvert un train touristique, le Mastrou, qui mène donc à la ville de Fouarre. Et la gare, du coup, a été réhabilitée, mais c'est un train qui fonctionne épisodiquement. La grande bifurcation entre les partisans du rail et les partisans de l'automobilisme, comme vous, se fait donc au milieu des années 30.
Alors, vous allez vite en me classant comme un partisan de l'automobiliste. Je me contente de noter la légitimité des intérêts de ce secteur par rapport à un monopole qui assure un service public, mais qui n'est pas nécessairement un service satisfaisant pour tout le public.
Mais et en 1935-36, le monopole de la SNCF est accentué par la nationalisation. Il y a un homme aux manettes, c'est peut-être pas le seul, qui est un très grand personnage, qui s'appelle Raoul Dautry, grand technicien de la République. Et là, il y a un choix dans la coordination des transports qui se fait et qui privilégie le chemin de fer.
Alors, c'est un peu antérieur, cette loi effectivement de coordination des transports, antérieure à la nationalisation de la Société nationale des chemins de fer français. Toujours est-il que cette loi, effectivement, que certains ont perçue comme étant malthusienne, et c'est Alfred Sauvy, grand contempteur par ailleurs de l'automobile, qui l'a noté à cette époque, eh bien, cette loi malthusienne à l'égard du transport routier vise à fixer et à figer une situation, et pas que dans le domaine du transport public collectif de grande capacité, également, par exemple, pour le public, le transport des taxis. Les lois fondatrices de ce numerus clausus d'une profession irréformable datent de cette période. Et donc là, il y a effectivement une réflexion du temps de crise des années 30 qui pourrait être décalquée, même si je n'en suis pas forcément un défenseur acharné, mais sur la concurrence modale de notre époque. Et donc, on projette parfois, et les représentations ont la vie dure, on projette parfois des tensions d'une période qui est celle des années 1930 sur la période contemporaine, avec des nécessités de dessertes qui sont radicalement différentes, sur une toile de fond du tableau qui est également radicalement différente, c'est-à-dire qu'on se déplace de façon exponentiellement supérieure aujourd'hui.
Alors on va venir au temps d'après-guerre, au déplacement exponentiel, Mathieu Flonneau. Encore un petit instant de sépia, si vous le voulez bien, les représentations ont la vie dure. Nous sommes en 1947, plus de 10 ans après que la situation a été figée, le réseau de chemin de fer a été passablement désorganisé par la guerre et les bombardements. Nous sommes toujours dans l'Est. Georges Jeuville se dirige vers le futur musée de l'autocar d'Alsace. Il va vers l'Alsace.
Nous allons effectuer aujourd'hui un bien joli parcours vosgien. Un parcours classique. Gérard Mer, Lachlourt, Münster en autocar. La voie ferrée a été détruite par les guerres et aujourd'hui le car effectue en moins de 2 heures le parcours de Gérard Mer à Münster, et heureusement, il n'y a plus de frontières. Moi, je vois venir le car qui va nous amener. Il arrive d'Épinal. Il est imposant, avec ses 10 roues, dont 4 jumelées. Il est bleu foncé et bondé de monde. Et voilà qui s'arrête. Nous allons nous approcher, prendre notre place, on charge les bagages. Il y a la foule qui fait ses adieux. Dites-moi, chauffeur, vous permettez que je m'installe à côté de vous ?
Eh oui, Mathieu, allez.
Là ! Voilà. Il est puissant, votre car, hein ? Vous avez dit qu'il avait 30 chevaux, c'est déjà quelque chose.
Ah ben, il faut ça pour grimper le col, hein, c'est dur.
Et vous avez de bons freins ?
Ah ça, monsieur, les freins, le contrôle est sévère, hein.
On ne prend jamais trop de précautions.
Oui, vous permettez ? Tout le monde a payé sa place ?
Oui, oui, non. Je m'installe pour l'instant, là.
Oui, voilà, monsieur. Bon.
Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous partons. Nous prenons la côte tout de suite. À Gérard Mer, voyons, nous sommes à 665 mètres. Nous grimpons à 1139 mètres au col. Ça fait une dénivellation de 474 mètres. Mais ici, dis donc, ça commence à grimper dur. Nous avons quitté la forêt. Le panorama s'élargit. Et en seconde, si vous ne connaissez pas, vous êtes bien en seconde.
Il tient presque toujours la seconde.
Ah bon. Il a du souffle, votre moteur, avec son chargement. Environ 40 personnes, hein, 40 personnes.
Oui, 40 personnes.
Ah ben, les bagages, les colis, son propre poids. Et voici le second lac, celui de Retournemer. Je ne vous parle plus, car le parcours commence à devenir sérieux. À droite, c'est le... Oh, un précipice et un beau précipice. Ah, ici, un tunnel. La vue est plus belle encore, une splendeur. Quel air on respire, malgré l'intérieur du car. Nous ne devons plus être bien loin maintenant, hein. Nous pénétrons en ville et nous allons bientôt nous arrêter. Là, nous voici arrêtés. Nous n'allons pas plus loin. Chauffeur, je vous remercie beaucoup et si vous avez un dur métier, vous avez en revanche un bien joli parcours.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun. Sur France Inter.
Nous parlons de l'autocar aujourd'hui avec Mathieu Flonneau. Vous avez produit assez d'émissions de radio, Mathieu Flonneau, pour goûter quand même la qualité du reportage in vivo, c'est le micro qui se déplace de Georges Jeuville, est toujours dans l'Est, toujours dans l'Est. Il est où votre musée de l'autocar ?
Il est à Betschdorf, en Alsace. Je ne le connais pas, mais il fait partie de ces musées de la Fédération française des véhicules anciens. Il est tout à fait intéressant, si l'on en croit le site internet.
La situation est contrainte, expliquez-vous, depuis le milieu des années 1930. Néanmoins, pour les sociétés locales d'autocars, comme celle qui a dû fretter l'autocar Gérard Maire Minster, il y a des possibilités de s'arrondir dans une niche. Vous parliez du taxi. Les sociétés d'autocars font du taxi. Le taxi, maintenant, c'est une sorte d'ambulance. Puis il y a l'ambulance elle-même. Pour aller dans les consultations dans les hôpitaux, pour aller se faire opérer, on prend le taxi, on prend l'ambulance, ça arrondit le revenu de la société d'autocar.
Tout ceci ne fait pas non plus du bien pour la dernière catégorie, budget de la sécurité sociale, et ça a été dénoncé par la Cour des comptes récemment. Mais il y a une archéologie effectivement de tous ces services. Et parmi les niches, il y en a une qu'il ne faut pas oublier, dont l'appellation me faisait remarquer Étienne Faugier est vraiment péjorative, le ramassage scolaire. Le ramassage scolaire dont des textes législatifs réglementent le fonctionnement à partir de 1959. Donc on entérine là un service qui est forcément antérieur, puisqu'on éprouve le besoin de légiférer à son sujet. Toujours est-il que le ramassage scolaire, c'est une institution dans la France rurale. Et donc, vous avez là, effectivement, des liens qui sont des liens de convivialité, qui sont des liens où l'automobilisme révèle sa dimension d'humanisme, puisque vous êtes au plus proche des individus. La pénétration, l'archive le témoigne bien, la pénétration des villes, au plus près, les gares routières, l'enjeu des gares routières est un enjeu majeur. Si d'aventure on vise à déréglementer le secteur du car, il va falloir trouver des endroits où stationner tous ces nouveaux cars.
Mais avant d'en venir aux gares routières, restons un instant, prenons la situation d'une vallée de montagne, je pense à la société Pépin dans une vallée que je fréquente souvent dans les Alpes. S'il n'y avait pas cette société qui fait taxi, qui fait ambulance pour la station de sport d'hiver, qui fait ramassage scolaire avec l'argent du Conseil général de l'Isère, la vallée serait morte.
On est bien d'accord. Hein ? On est bien d'accord.
Donc, on va maintenant parler des réglementations
et
ouverture à la concurrence. Il va bien falloir garder ce secteur de niche.
Mais précisément, et là c'est une des craintes des détracteurs de ces lois nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines lignes qui, rassurez-vous, n'intéresseront jamais des grandes sociétés parce qu'elles ne seront jamais plus rentables que ce qu'elles peuvent assurer comme chiffre d'affaires. Donc ces sociétés-là, ultra-locales, ne sont pas totalement mises en question par cette loi. Ce sont plutôt des lignes où la question de l'âge, des générations des personnes transportées compte, les jeunes sont attendus sur ces lignes d'autocar, le troisième et le quatrième âge également. On est là dans un transport.
Alors attendez, on va essayer d'expliquer ce que c'est que, avant que vous ne défendiez Emmanuel Macron mordicus.
Il se défend lui-même.
Il faut dire que si on fait un peu d'histoire, il y a un leitmotiv de l'Union européenne relayé par l'autorité de la concurrence à Paris. Le document sur lequel se fondent beaucoup de journalistes pour parler de l'autocar aujourd'hui, c'est un document très fourni qui émane de l'autorité de la concurrence. Et la loi Macron n'est au fond qu'une application obligatoire de ce que Bruxelles recommande. La Grande-Bretagne l'avait fait avant même Bruxelles, l'Allemagne l'a fait en 2013.
Oui, et les activités économiques de ces secteurs ont été développés de fait. Donc
Allemagne,
il faut voir.
Le train n'a pas été atteint en Grande-Bretagne.
Oui, mais il faut voir quand même. Le train, la déréglementation est bien plus ancienne. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas un argument à opposer à cette loi. J'attire votre attention sur la réception de cette loi. Certains y ont vu l'action du grand capital. Bon, le capital monopolistique type SNCF, c'est une réalité également. Par ailleurs, d'autres ont plaidé l'insignifiance de cette loi. Elle ne l'est pas. Il suffit de voir l'agitation sur les blogs et l'ampleur des commentaires que cela suscite.
En tout cas, Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie, ne se justifie jamais en disant qu'il applique la réglementation sur la concurrence qu'on lui demande d'appliquer. Sa justification se fait par le bas. Ceux qui ont de faibles revenus, qui sont isolés, auront, dit-il, davantage de chances de mobilité. En tout cas, c'est ce qu'a retenu, et c'est seulement cela qu'a retenu le petit journal de Canal+.
Vous aimez voyager ? Vous êtes pauvre ? Emmanuel Macron a la solution pour vous. L'autocar by Emmanuel Macron, les pauvres vont enfin pouvoir voyager plus facilement.
Merci Emmanuel !
Quand on me dit « les pauvres voyageront en autocar »,
j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui, parce que l'autocar, c'est 8 à 10 fois moins cher. Et lorsqu'on regarde qui voyage aujourd'hui en autocar, bien en effet, ce sont les familles les plus modestes, ce sont les jeunes, ce sont les sans-emploi ou les emplois les plus précaires et les plus fragiles. Et je pense qu'il y a là à la fois une mesure de justice, mais une mesure d'efficacité et un potentiel d'activité dans le secteur des transports qui est réel pour notre économie avec la création de plusieurs milliers d'emplois.
Le potentiel d'activité, je chevauche moi aussi Emmanuel Macron, 50 000 employés, qu'on le sache actuellement, dans 1500 entreprises. Les entreprises qui vont fréter les lignes peut-être dès l'été, ce sont des grandes sociétés, françaises ou étrangères, dont il faudrait peut-être faire l'histoire, Mathieu Flonneau.
Là, je vous rejoins totalement. C'est une forme de capitalisme qu'il faut réfléchir sur le fond. Mais j'espère que le micro va intercepter mes postillons, parce que je n'aurai pas de mots assez durs à l'égard de la France de winner que le petit journal de Canal Plus nous caractérise. C'est-à-dire que là, vous avez un mépris qui est sans borne et qui véritablement fait mal au cœur à ceux qui s'intéressent aux enjeux sociaux profonds de la mobilité. C'est-à-dire que vous voulez interdire à des personnes dans la société précarisées de se déplacer. C'est tout de même une réflexion qui est très problématique. Et là, c'est une défense finalement d'une équité du service au public que ce type de nouveau service que les autocars représentent vient offrir.
On peut peut-être débattre, parce que ça a une racine historique, des conséquences sur le monopole de la SNCF qui est devenue et qui devient de plus en plus, contrainte et forcée, une actrice de la route.
C'est une actrice de la route et dans le domaine du fret plus encore, où l'échec du ferroutage a été notoire, patent. On ne parvient pas véritablement à inverser une situation que la route a gagnée. Et donc la SNCF s'est engagée et c'est un très grand opérateur de fret. Et donc là, il n'est pas surprenant qu'avec des sociétés comme Idebus, elles visent à s'intégrer à ce marché rentable.
Oui, d'accord. Mais alors, prenons un exemple, si vous le voulez bien. La ligne... Nous sommes maintenant en Haute-Marne, Paris-Saint-Dizier. Elle est interrompue une bonne partie du temps à Châlons-en-Champagne. On prend un car, ça met une heure et demie. C'est déjà beau que le chauffeur connaisse le chemin, parce que ce n'est pas toujours le cas pour les cars de remplacement de la SNCF. On a énergie plein les oreilles. Et on va se dire, au bout d'un moment, ce n'est pas rentable de réparer cette ligne de chemin de fer. On va vous mettre en remplacement un autocar.
Mais tout l'enjeu, ce sont ces vitesses différenciées. Et il est vrai que la SNCF se trouve confrontée à des débats internes également sur le respect de ces petites lignes, qu'on appelle petites lignes, et la culture de la grande vitesse qui est aujourd'hui insoutenable financièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le développer.
On n'a pas le temps de parler de l'empreinte écologique, vous auriez beaucoup à dire, Mathieu Flonneau, ni non plus de la sécurité, parce qu'il faut toujours être exact et assurer les correspondances.
Pardon, c'est bien le car pour plein d'orgon?
Oui.
Ah, merci. J'ai eu peur, vous savez. J'arrive juste à temps, hein?
Ah, ça oui, vous arrivez juste.
Pardon.
Eh, pardon, cette place est celle de ma femme.
Excusez-moi.
Il y en a une de libre ici.
Merci, monsieur.
Receveur, nous avons déjà 29 minutes de retard.
Ouais. Oh, dans le Nord, ça n'arriverait pas, c'est moi qui vous le dis. Quel pays. Et vous êtes le chauffeur?
Oui, je suis le chauffeur. Pourquoi?
Vous savez l'heure qu'il est?
Un moment, c'est tranquille. Très bien, je viens tout de suite.
Tout de suite, avec ça, il nous fait rater la correspondance.
On se moque des usagers.
C'est inadmissible. Je me plaindrai à la compagnie.